Europe 1, Punchline, Anthony Favalli.
Et bienvenue dans Punchline, je suis ravi d'accueillir les auditeurs d'Europe 1, les invités sur ce plateau pour nos débats. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir à vous. Gérard Leclerc, journaliste politique, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion de sécurité intérieure. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va commencer par un sujet qui va certainement intéresser nos auditeurs d'Europe 1 qui sont dans leur véhicule actuellement. Et si l'on arrêtait de retirer des points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse, c'est-à-dire moins de 5 km/h, pas plus. En tout cas, une des réflexions menées en ce moment au ministère de l'Intérieur. En 2020, les excès de moins de 5 km/h ont représenté 58% de l'ensemble des excès de vitesse, soit 7,3 millions de PV. Attention, les amendes devraient en revanche être maintenues. On est avec Pierre Chasseret. Bonjour. Vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, Pierre Chasseret, une victoire pour les automobilistes, du moins que cette réflexion soit engagée du côté du ministère de l'Intérieur ?
Oui, oui, le symbole est très fort. Hein. Le symbole, ça veut dire que pour la première fois, on va peut-être céder un petit peu de terrain aux automobilistes et leur rendre de la confiance. Au lieu d'être systématiquement dans de la sanction, dans une mécanique comme ça qui visait à toujours augmenter la répression sur les petits excès de vitesse, pour la première fois, on va lâcher un petit peu de pression. Alors, on va être très clair, Anthony, ça ne suffit pas. Parce que ça ne fait pas oublier le débat du 80 km/h, qui n'a toujours pas été avalé par les Français. Et puis, il y a toujours la sanction financière. L'excès de vitesse et les 135 € ou 68 € qui sont affectés aux tout petits excès
de vitesse.
Parce que
vous souhaitez également supprimer l'amende qui est accolée à cette perte de points lors des excès de vitesse de moins de 5 km/h.
Oui, parce qu'en fait, les excès de vitesse de moins de 5 km/h, ce sont des excès de vitesse involontaires. Sinon, on n'a aucun intérêt, puisque que l'on soit 5 au-dessus ou 20 au-dessus, c'est la même sanction. Donc, il faut appliquer, en fait, ce que pratique, par exemple, l'Angleterre. L'Angleterre est le numéro un européen de la sécurité routière. Et il pratique une amnistie totale sur ces petits excès de vitesse qui sont considérés non accidentogènes. Évidemment, bien sûr, non accidentogènes. Et puis surtout, qui sont considérés involontaires avant tout.
Pierre Chasseret, vous avez conscience que c'est quand même 714 millions d'euros pour l'État.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est 714 millions d'euros qui sont volés sur le dos des Français avec un faux argument de sécurité routière, je me dis que ça sert à rien. Je préférerais qu'on amplifie la répression routière sur les vrais chauffards que sur de monsieur et madame tout le monde qui roule 2 km/h au-dessus en bas d'une descente.
Pour vous, c'est un faux argument de sécurité routière. Ça veut dire que vous n'avez pas le sentiment qu'on laisse une porte ouverte à la banalisation des excès de vitesse sur la route avec ce type de mesure, que c'est pas peut-être un mauvais discours, un mauvais signal pour les automobilistes?
Non, mais on nous fait le coup du mauvais signal depuis des années et au final, depuis 2008, la France sombre dans le classement européen de la sécurité routière. On était 8e, on est maintenant au niveau de la 16e place. On est en train de s'écrouler parce qu'on mise tout sur les petits excès de vitesse et que c'est pas le bon combat.
Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, dit près de la moitié des accidents graves, des accidents mortels sont générés par ces petits excès de vitesse.
Oui, c'est ce qu'il nous dit. Oui, bah, il joue de la flûte. Il faut être très honnête et objectif. Il faut se comparer. On peut pas asséner une vérité tout seul en France. Il faut se comparer par rapport à nos voisins européens qui sont similaires à nous et qui fonctionnent sur des limitations de vitesse sensiblement équivalentes aux nôtres. Donc non, ça ressemble à rien. Il faut arrêter de faire peur. On a des associations aujourd'hui, très peu d'ailleurs, qui militent pour une baisse totale des limitations de vitesse et qui n'ont d'ailleurs eu aucun impact sur la sécurité routière. Tiens, je vais vous prendre un exemple, Anthony. Regardez par exemple la baisse à 80 km/h. On nous avait annoncé qu'on allait sauver 450 vies par an. Quand je regarde les chiffres de la sécurité routière de ces derniers mois, nous sommes au-delà en termes de mortalité qu'il y a 10 ans. En 2013, on avait moins de tués sur les routes et pourtant la limitation était à 90. Donc où sont les 450 vies épargnées qu'on nous avait promis? Eh bien, elles ne sont pas au rendez-vous parce que pendant ce temps-là, eh bien, on a une majorité d'automobilistes qui n'est pas sensibilisée à l'usage du téléphone portable au volant, par exemple. Et ça, c'est un vrai chantier. Je pense aussi aux stupéfiants au volant. 25% des cas d'accidents mortels aujourd'hui. Il y a 10 ans, ça représentait une part infime. Toutes ces causes d'accidents s'envolent. Et là-dessus,
Pierre Chasseret, on va en rester en tout cas à ces amendes et à ces pertes de points pour les excès de vitesse de 5 km/h. Vous allez rester avec nous par téléphone si vous voulez réagir à nos invités, aux propos de nos invités. Gabriel Cluzel, vous trouvez que c'est une bonne mesure, c'est un bon signal qui est donné aujourd'hui que de supprimer ces pertes de points avec un excès de vitesse de 5 km/h?
Oui, ça me semble être un bon signal, de fait. Et moi, je partage l'avis de ce monsieur. Il me semble que les amendes devraient suivre également, parce qu'il a tout à fait raison de le dire. Généralement, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de dépasser la vitesse. Alors, on peut en parler en région parisienne, mais pas seulement. Alors, en région parisienne, on passe du 50 au 30 au 70. Et il suffit qu'une voiture passe à côté de vous à ce moment-là et vous ne voyez pas le panneau. Mais on le voit aussi dans les zones rurales. Quand l'été dernier, pour passer... Je suis passée de l'Aveyron au Tarn-et-Garonne, je crois que c'était bien le Tarn-et-Garonne, on est passé de 90 à 80 subitement, la route n'avait pas changé, mais parce que c'était une décision départementale, donc c'est vrai que c'est un peu ubuesque de frapper l'automobiliste qui se sent déjà très mal aimé, hein, il faut bien le dire aujourd'hui, par des mesures vexatoires et punitives.
Il faudra aussi retirer les amendes pour ces petites infractions.
Oui, il me semble, oui. En effet, en revanche, s'intéresser, ça me paraît tout à fait capital, monsieur en parlait, à la conduite sous stupéfiant, parce que ça fait partie des angles morts aujourd'hui, alors que c'est gravissime. Mais je crois que ça accentue, et sans doute le gouvernement le voit-il, ça accentue ce sentiment de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que le conducteur qui, finalement, n'a jamais connu plus grand crime que de dépasser le temps imparti par un horodateur ou de dépasser 5 km sur une route. Lui, il a l'impression qu'il n'a jamais le droit à l'erreur. En revanche, alors qu'on a un sentiment d'impunité pour le reste de la société. Donc, ce serait lui donner le sentiment qu'on a compris son désarroi.
Gérard Leclerc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. On peut être totalement dans la démagogie. On peut effectivement dire on supprime non seulement les points, mais on supprime les amendes, mais on supprime tout, les limitations de vitesse, etc. Bon, je rappelle quand même que la route, ça fait plus de 3000 morts par an. 3000 morts par an. Et des milliers de gens qui terminent dans des fauteuils roulants. Il y a quelques années, on était monté jusqu'à 16 000 morts. Et c'était au milieu des années 70. Ça remonte quand même à un petit moment. Et entre-temps, on a pris un certain nombre de mesures qui, chaque fois, étaient impopulaires. On a instauré les limitations de vitesse, on a instauré les permis à points, on a instauré l'alcoolémie, etc. Et progressivement, chaque fois qu'on a pris des mesures comme ça, on a fait baisser le nombre de morts. C'est-à-dire qu'on a évité des milliers de familles qui sont touchées de plein fouet par ces accidents qui sont épouvantables. Alors moi, je veux bien qu'on dise, on va comme ça, on revient à ce qui était avant. Mais si on revient à la situation d'avant, on aura de nouveau des drames épouvantables. Donc voilà, alors sur le point précis de... Est-ce que, effectivement, pour les petits dépassements, éventuellement, faut pas qu'il y ait systématiquement des retraits de permis, des retraits de points de
des
permis,
retraits de points
de points de permis. Peut-être, il faut peut-être voir dans le détail, mais alors, d'une façon générale, la philosophie générale, c'est quand même que, et là, chaque fois qu'il y a
pas nécessairement la bonne décision pour vous.
Chaque fois,
il reste une minute pour l'avocat Thibault de Montbrial.
Une observation avant de vous donner mon avis. Si on supprime le retrait de points et l'amende, ça veut dire qu'on augmente la limitation de vitesse. S'il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus d'interdiction. Donc la question, c'est est-ce qu'on augmente de 5 ou 10 km heure la limitation de vitesse? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Par contre, je pense qu'il faut augmenter les effets. Il y aura toujours des effets de seuil. Si on augmente de 5 km/h en disant on ne fait pas attention, une fois que vous aurez augmenté de 5 km/h, sur les 5 km/h suivants, on aura le même débat et ainsi de suite. Je pense que sur les premiers 20 km/h, on a la même sanction. Je pense qu'il faut saucissonner de 0 à 10. Je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas de retrait de points. Par contre, on garde l'amende. Et de 10 à 20, on pourrait avoir le retrait de points et l'amende. Donc moi, je mettrais un seuil, non pas à 5, mais à 10. Comme ça, on aurait 10, 20 et on enchaînerait avec les autres seuils qui sont 30, 40 et 50. Ce serait beaucoup plus lisible.
On va marquer une courte pause sur CNews et Europe 1. Merci à vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On revient dans un instant. On évoquera cette tuerie aux États-Unis. Les États-Unis sous le choc après une fusillade dans le Texas.
Punchline. Anthony Favalli sur Europe 1.
« De retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je suis toujours avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gérard Leclerc, journaliste politique, et Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion de sécurité intérieure et avocat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je voudrais qu'on aborde maintenant ce terrible drame qui s'est produit aux États-Unis. Les États-Unis sous le choc après cette fusillade dans une école du Texas. Ce mardi, un adolescent de 18 ans a tué 21 personnes et parmi les victimes, 19 enfants, des enfants âgés d'une dizaine d'années seulement. L'auteur de cette fusillade a été abattu. On va tout de suite rejoindre notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth, je voudrais tout d'abord avec vous revenir sur les faits. Que s'est-il déroulé exactement ce mardi soir?
Alors, a priori, et on va avoir confirmation parce qu'il va y avoir une conférence de presse dans l'heure qui vient, la police en tout cas a été alertée, a été appelée dans le quartier de l'école primaire avant la fusillade, à l'adresse de la grand-mère de Salvador Ramos, donc le jeune auteur de la fusillade, parce qu'il a tiré sur sa grand-mère avant de s'échapper en voiture. Donc la police a été à ce moment-là appelée. Lui a roulé à toute vitesse en voiture. Il s'est arrêté devant l'école. On ne sait pas s'il s'est arrêté parce qu'il s'est retrouvé dans le ravin et qu'il a fait une mauvaise manipulation de conduite ou s'il avait vraiment visé cette école. En tout cas, il a réussi à entrer dans l'établissement scolaire et à s'enfermer, se barricader dans une classe de fourth grade, qui est l'équivalent de CM1. Et donc, c'est là où ça a été particulièrement délicat pour la police parce que c'était difficile d'entrer dans cette classe. Elle a dû faire appel à une équipe, une unité spéciale habituée à ce genre de situation. Et c'est là où ça a pris un peu de temps, peut-être 20 minutes, peut-être 30 minutes. On n'a pas le détail, mais ça a été très long. On imagine le cauchemar qu'ont vécu ces enfants avec leurs professeurs enfermés avec ce jeune homme lourdement armé qui donc a ouvert le feu. Il a été ensuite abattu par la police. Il y a eu des échanges de coups de feu. Deux agents ont été blessés, mais on imagine donc ce drame. Encore une fois, on n'a pas encore tous les détails. Une conférence de presse devrait avoir lieu dans l'heure qui vient.
Et on rappelle ce terrible bilan, hein, 21 personnes tuées, dont 19 enfants âgés d'à peine une dizaine d'années. Elisabeth Guedel, parlez-nous du profil du tueur. Vous nous avez donné son nom, Salvador Ramos.
Salvador Ramos, oui, 18 ans, et c'était un lycéen, un ancien lycéen de la petite ville du Valdé, hein. Il était originaire de cette région. D'après ses camarades de classe, il était plutôt gentil, plutôt silencieux, mais il a été victime de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Et depuis quelques mois, son comportement a changé, il a été obsédé par les armes à feu, il s'est offert pour son anniversaire, deux fusils d'assaut qu'il a achetés en toute légalité dans l'état du Texas. Et donc là, il avait posté des messages un peu inquiétants sur Instagram. Donc ses camarades ont vu quelque chose, ont senti qu'il y avait quelque chose qui avait basculé, mais ils n'avaient pas bien compris. En tout cas, il avait quitté le lycée et s'était enfermé dans cette obsession des armes.
Cette nouvelle tuerie, elle a suscité l'émotion dans le monde entier, plus encore, j'imagine, aux États-Unis et notamment au sein de la classe politique.
Tous les Américains choqués, stupéfaits effectivement, et la classe politique, les démocrates notamment, vous savez que depuis 10 ans, rien n'a été fait. Je parle de 10 ans parce qu'on fait tous référence à la fusillade à Sandy Hook dans le Connecticut, qui a été une fusillade épouvantable. 20 enfants sont tombés sous les balles d'un jeune de 20 ans, donc c'est la référence de l'ultime horreur dans ce genre de tuerie de massacre aux États-Unis. Et malgré ces 20 enfants morts il y a 10 ans et maintenant ces fusillades qui se sont répétées, que ça soit dans les écoles, dans des églises, dans des supermarchés, hein, il y a 10 jours à Buffalo, eh bien rien n'a jamais été fait. Donc effectivement, les élus démocrates sont vent debout. Barack Obama avait essayé avec son vice-président Joe Biden à l'époque de faire passer une loi pour au moins imposer une vérification des antécédents de tout acheteur pour toutes les armes. Ça avait échoué et depuis ça a échoué. La classe politique qui est vent debout, le sénateur du Connecticut notamment, a fait un vibrant plaidoyer pour agir, pour rappeler ses collègues à agir au Congrès.
On l'entendra dans quelques instants justement. Elisabeth Guedel, vous avez couvert, vous nous parliez à l'instant de ce terrible drame de Sandy Hook, c'était il y a 10 ans, donc en 2012 dans le Connecticut, et on se souvient à ce moment-là des larmes de Barack Obama.
Mais oui, tout le monde se souvient de ses larmes d'impuissance. Hein. Il avait, et ça avait été terrible pour lui de voir qu'on n'avait pas pu protéger ses enfants. Il faut savoir que Newtown, dans le Connecticut, c'était la petite ville parfaite, paradisiaque, avec des familles, des jolies petites maisons. Et donc, jamais on n'avait pensé que des enfants pouvaient être en danger, perdre la vie dans leur école. Il faut savoir, quand on couvre ce genre d'événement, je pense que c'est l'événement le plus, l'actualité la plus difficile à couvrir. C'est toute une communauté qui est plongé dans un chagrin et une douleur indescriptible et de façon irrémédiable. Et ça, on avait beaucoup de gens en larmes, évidemment. Et donc, Barack Obama avait exprimé lui aussi sa douleur, son empathie pour toutes ces familles. Et puis après, l'échec au Congrès, il n'avait pas pu réussir à faire changer les choses, à faire bouger les lignes sur les armes à feu.
Merci infiniment Elisabeth Guedel pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes en direct de New York aux États-Unis. Cela relance évidemment dans le pays le débat sur la prolifération des armes à feu. Les lobbies sont-ils plus puissants, le lobby des armes bien sûr, que la Maison-Blanche? C'est la question que je voulais vous poser autour de la table. Thibaut de Montbrial, les fusillades, les tueries de masse, c'est un cauchemar chronique pour les Américains.
Ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément familiers de la législation américaine, c'est que précisément, il n'y a pas de législation unie aux États-Unis. Il y a une législation qui ressort de la responsabilité de chacun des 50 États. Le Texas est un des États qui a la législation la plus libérale, mais vous avez tout un tas d'autres États dans lesquels l'achat d'armes, qui serait en équivalence en France à titre sportif, à titre de loisir, est encadré avec certains types d'armes qui sont interdites et surtout un achat qui est subordonné à ce qu'on appelle des background checks, c'est-à-dire des recherches d'antécédents avec des fichiers, etc., voire à des certificats médicaux. En France, il faut savoir, parce que les gens doivent aussi se poser la question de savoir, et chez nous, on peut acheter dans le cadre du tir sportif un certain nombre d'armes, mais d'abord pas des fusils automatiques en version ce qu'on appelle full auto, c'est-à-dire qui tirent en rafale, ça c'est interdit. Et d'autre part, il y a une enquête de police et la nécessité de consulter un médecin qui engage sa responsabilité dans un certificat médical. La deuxième observation que j'ai, toujours par rapport aux Français, parce qu'en réalité, les gens qui nous regardent, nous n'y pouvons rien à la législation américaine. Mais par contre, peuvent aussi se poser la question de savoir comment nous réagirions s'il y avait un drame comme celui-là en France, que ce soit l'acte d'un déséquilibré ou que ce soit des motivations politiques, islamistes ou autres, puisqu'on sait que l'État islamique a toujours dit qu'il essaierait d'attaquer un jour une école en Europe, etc. Ce que j'ai entendu dans le reportage de votre journaliste, c'est qu'on a attendu une unité spécialisée pendant plusieurs dizaines de minutes et que pendant ce temps-là, le massacre s'est perpétré. En France, depuis 2016, c'est-à-dire depuis après le 13 novembre, il y a eu ce qui s'appelle un schéma national d'intervention qui a vocation à permettre, dans l'hypothèse d'une telle action sur le territoire français, aux premiers policiers ou gendarmes arrivant, même s'ils ne sont pas spécialisés dans l'intervention comme le sont le GIGN ou le RAID, d'initiative, s'ils estiment en être capables, ils ont le choix, d'entrer pour faire cesser la tuerie si elle a lieu. Donc il faut savoir qu'en France, ce genre de cas est prévu, que nos policiers et nos gendarmes sont plus ou moins formés selon leurs unités, mais qu'ils ont d'ores et déjà l'autorisation d'initiative d'intervenir en direct si jamais il se passe quelque chose comme ça et s'ils s'en sentent capables.
On est mieux armé finalement que les États-Unis face à ce genre de phénomène.
Je dis pas ça parce que les États-Unis sont une culture dans laquelle il y a une violence par arme à feu qui est bien supérieure à celle qu'elle est en Europe et en particulier en France. Donc ça veut dire qu'il y a une délinquance qui utilise beaucoup plus d'armes à feu. Il y a des citoyens qui sont beaucoup plus entraînés et habitués aux armes à feu et donc il y a une police qui est plus entraînée au tir que les unités de police notamment en France.
Les écoles là-bas sont protégées ou...
Ça dépend des États. Vous avez même des États où il y a des portiques pour détecter les armes, ce qui est un peu triste quand on y pense. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, moi, ce que je pense qui intéresse aussi les gens qui nous regardent, c'est de savoir ce qui se passe chez nous, et qui nous écoutent, pardon, sur Europe 1, ce qui se passe chez nous. Donc c'est que ce cas de figure, il est prévu, et qu'aujourd'hui, nos policiers et nos gendarmes ont le droit d'intervenir, même sans renfort, s'ils estiment qu'il y a un massacre en cours et qu'il faut y aller.
Gérard Leclerc.
Oui, fort heureusement, parce qu'on se plaint beaucoup, il y a juste raison, de la violence en France, mais enfin la situation est totalement incomparable avec ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même 21 000 morts par an, 21 000 homicides, dont 17 000 par arme à feu. Et parmi ces 17 000, il y a 650 enfants. Et depuis le début de l'année, il y a eu 213 fusillades dans des écoles, dans des centres commerciaux, etc. C'est une folie complète. Alors, pourquoi quelle est l'explication? Bon, les États-Unis, il y a dans la culture américaine une violence. L'histoire américaine est assez violente. Il y a eu un film qui s'appelait Gang of New York, je me souviens, où ils expliquaient un peu ça. Mais il y a aussi, et surtout, C'est le fait que tout le monde quasiment peut acheter une arme sans permis. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas précis du meurtrier.
Il a acheté cette arme auprès d'un particulier.
Voilà, et il a acheté deux fusils d'assaut, paraît-il. Deux fusils d'assaut, comme ça, il a 18 ans, il va dans un magasin, il achète deux fusils d'assaut, et donc ensuite, ça se termine par la fusillade. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Et qui s'explique par la puissance de la National Rifle Association,
la NRA, le lobby des armes américains.
Voilà, le lobby des armes américains qui fait échouer toutes les tentatives pour justement réglementer davantage le vente d'armes. C'est une association qui est extrêmement puissante, qui finance, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas les règles de financement des partis politiques et des candidats comme ça existe en France, et donc qui finance clairement, vu et au-dessus de tout le monde, un certain nombre de candidats, notamment, il faut bien le dire, chez les Républicains. Et donc, aucun, y compris quand vous posiez la question est-ce que le lobby des armes est plus fort que le gouvernement américain, d'une certaine façon, oui. Parce qu'il y a eu plusieurs présidents américains, dont Obama, dont Biden, qui demandent à ce qu'on réglemente.
Je me rappelle des larmes de Barack Obama. Voilà. C'est pour ça que je pose cette question. Parce qu'un président américain peut pleurer pour un drame comme celui-ci, et puis on se rend compte que 10 ans plus tard, la situation est toujours la même.
Et au moment du vote au Congrès, eh bien, il y a une majorité contre. Voilà, ça se passe comme ça.
Je voudrais qu'on écoute l'émotion de Chris Murphy, le sénateur du Connecticut, où s'est justement déroulée la tuerie de Sandy Hook en 2012, et il réagit bien sûr à cette tuerie dans le Texas.
What are we doing?
Que faisons-nous? Que faisons-nous?
Just days after a shooter walked into a grocery store.
Quelques jours seulement après qu'un tireur soit entré dans une épicerie pour abattre les clients afro-américains, nous avons un autre Sandy Hook sur les bras. Que faisons-nous? Il y a eu plus de fusillades de masse que de jours dans l'année. Nos enfants vivent dans la peur. Chaque fois qu'ils mettent les pieds dans une salle de classe, car ils pensent qu'ils seront les prochains.
Gabriel Cluzel, l'émotion de la classe politique aux États-Unis n'y change strictement rien.
Oui, c'est terrible, mais derrière ces armes à feu, il y a aussi un problème d'une jeunesse, de ces responsables de ces tueries, parce que je peux souscrire à tout ce que vous dites, mais néanmoins, c'est celui qui tient l'arme à feu qui reste coupable, comme chez nous, quand il y a une épidémie d'égorgement, c'est pas en interdisant les couteaux qu'on va résoudre le problème. Il faut analyser ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je vous renvoie à un film très intéressant, puisque vous parliez de cinéma, un film qui avait été présenté, qui faisait partie de la sélection du Festival de Cannes en 2011, qui s'appelle We Need to Talk About Kevin. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça montre un enfant, c'est un peu l'enfant roi, hein, ça pose de vraies questions à nous autres occidentaux, qui grandit et qui finit par tirer, comme vous l'avez décrit, sur ses petits camarades, sauf qu'il ne tire pas avec une arme à feu, il tire avec un arc et des flèches, et il en tue des dizaines. Donc au-delà de la nature de l'arme, il y a aussi un profond malaise dans notre jeunesse qui existe aussi en France, hein, parce que parlant sauvagement, alors moi je veux bien qu'on dise qu'on se réjouisse, tout va très bien, Madame la Marquise, en France, les chiffres sont difficilement comparables des États-Unis à la France, parce que nous n'avons évidemment pas la même population, et puis vous disiez c'est un peu triste de mettre des portiques anti-armes à feu devant les écoles, c'est vrai, mais je vous rappelle quand même que nous avons aussi des barrières devant nos écoles. Il fut un temps pas si ancien où nous pouvions nous garer dans les écoles, et il y a des risques aussi en France.
Cher Gabriel, je suis peu suspect de ne pas en parler.
Voilà, exactement. Bien sûr. Et donc ça, c'est des risques extrêmement forts. On pourrait rapprocher de ça aussi des statistiques aussi sur les suicides de jeunes, qui finalement, c'est une violence qui retourne contre eux-mêmes, qui sont très, très, très fortes en France. Alors, moi aussi, je veux bien entendre tout le développement sur les présidents démocrates qui sont très gentils, qui pleurent, qui sont impuissants, et les républicains qui sont très méchants et qui sont soutenus par les lobbies des armes. Néanmoins, bah écoutez, le résultat, c'est quand même que l'Amérique de Biden n'a pas l'air d'aller tellement mieux que l'Amérique de Trump.
On va marquer une courte pause, le temps du rappel de l'actualité sur CNews et Europe 1.
Punchline. Anthony Favalli sur Europe 1.
De retour dans Punchline sur CNews et Europe 1 avec mes invités Gabriel Cluzel, Gérard Leclerc et Thibaut de Montbrial pour évoquer cette actualité. Je voulais vous présenter notre sondage CSA pour CNews que je fais découvrir aux auditeurs d'Europe 1. Doit-on intensifier la lutte contre les rodéos sauvages? 96% des Français répondent oui, 3% répondent non. Le 1% restant ne se prononce pas, évidemment. On a eu un exemple criant ces derniers jours, cet enfant de 5 ans blessé au visage à l'occasion d'un rodéo urbain lors d'une promenade en famille. 4 individus ont été interpellés. L'accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Faire des banlieues une priorité nationale, c'est la question que je voulais vous poser sur ce plateau. Écoutez ce qu'en dit Benoît Jiménez, il est le maire de Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise.
Dans notre société, on a des fractures importantes, les banlieues qui ne parlent plus aux métropoles, les métropoles qui ne parlent plus à la ruralité. Si on peut faire en sorte finalement que les banlieues puissent de nouveau être une priorité nationale, qu'on puisse le voir incarné dans un ministère important avec des fonds dédiés, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses très bien comme les cités éducatives, comme les bataillons de la prévention qu'on a déployés aussi à Garges-lès-Gonesse, mais ça ne va pas assez loin, il faut qu'on aille encore plus loin pour faire en sorte que précisément des phénomènes comme on peut avoir, au sein de nos quartiers, notamment aux abords des lycées ou alors des rixes interquartiers, ne voient plus le jour.
Thibaut de Montbrial, qu'il s'agisse des rodéos urbains ou des rixes, est-ce que vous estimez que l'État a abandonné les banlieues?
Oui, mais pas d'hier. Oui, mais pas d'hier. Pourquoi? Ça fait des décennies qu'il y a une dérégulation, que les problèmes en banlieue augmentent, que la violence explose. Ça nous renvoie à la question de l'urbanisme, ça nous renvoie aussi à la question de l'immigration, qui est en plein dans le sujet. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur les rodéos, l'État, et là, j'en reviens aux 5 dernières années, c'est toujours pareil. Il y a eu des petites avancées, il y a eu une petite loi, mais une loi totalement insuffisante. Alors,
vous parlez de la loi de 2018,
mais c'est oui, et ça. Qui permet aujourd'hui au gouvernement, en période de campagne électorale, de dire, regardez, on a fait des choses. Mais si on regarde cette loi de 2018 et tout ce qui arrive depuis, ça montre l'extraordinaire inanité de cette loi et l'impuissance totale des pouvoirs publics.
Je rappelle qu'elle est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Et pour vous, c'est pas suffisamment dissuasif aujourd'hui?
C'est pas dissuasif parce que ça pose, il y a tout un tas de problèmes pratiques. C'est d'ailleurs cette loi, elle a été réévaluée 2 ans après, ce qui était bien la preuve qu'elle était insuffisante et même la réévaluation ne me semble pas l'être. Mais plus généralement, ce que je veux dire, c'est que la question des banlieues, ça fait des décennies. Moi, j'ai 53 ans, ça fait 40 ans que j'en entends parler, et les 13 ans avant, j'en entendais pas parler parce que j'étais trop jeune. Mais j'en ai toujours entendu parler dans le débat public, et ceux qui nous écoutent sont dans le même cas que moi. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre un peu de champ, parce que c'est pas de mettre un nouveau plan Marshall, encore de l'argent, etc., qui va changer quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est prendre du champ et se dire que faire évoluer la question des banlieues, ça implique de se poser deux grands types de questions. Le premier, c'est une question de type sécurité. C'est-à-dire qu'il faut assumer que l'appareil d'État soit d'une fermeté extrême dans son action dans les banlieues sur place. 95% des gens qui habitent dans les banlieues sont les otages de ceux qui y commettent des crimes et des délits et qui souvent sont les mêmes ou les mêmes familles ou les mêmes groupes culturels ou ethniques qui s'y livrent à de la délinquance. Premièrement. Et ça, il faut le faire de façon implacable. Police, justice. Et en même temps, à côté, il faut évidemment une politique massive d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, parce que la sécurité, ça permet d'arrêter et d'empêcher la délinquance, mais c'est pas une fin en soi, la sécurité. La sécurité, c'est le préalable pour que tout le reste puisse se mettre en œuvre et qu'on libère véritablement toutes les familles qui habitent dans ces quartiers pour qu'elles aient enfin accès à la culture et à l'éducation qui seules leur permettront à eux tous d'accéder à une vie meilleure, de retrouver la confiance pour aller chercher du boulot et la confiance de ceux qui offrent du boulot pour les accueillir. Il y a eu une rupture de confiance totale entre les banlieues et le reste du pays et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est un travail d'ensemble et je pense qu'il ne passe pas nécessairement par plus d'argent, mais par un volontarisme qui soit à la fois sécuritaire et culturel.
Gabriel Cluzel, beaucoup d'observateurs parlent d'ensauvagement de la jeunesse aujourd'hui, d'une jeunesse de plus en plus violente.
Oui, alors si la question est de savoir s'il faut lutter contre les rodéos, oui, évidemment, je suis affirmative. Et on voit qu'il y a un renversement de paradigme dans cette société. Et ce cas des rodéos est extrêmement emblématique. C'est-à-dire que pour ne pas blesser ces jeunes, parce que c'est ça, pourquoi la police n'intervient pas, peur d'intervenir, pour ne pas les blesser, en fait, la peur aussi en arrière-fond, c'est que ça fasse flamber les banlieues. Donc pour ne pas les blesser, on n'intervient pas, mais de ce fait, ils blessent des enfants, alors que le choix devrait être vite fait entre ces jeunes qui ont choisi de narguer la police à leurs risques et périls et un petit enfant qui n'a rien demandé à personne. Et c'est éminemment symbolique de l'état d'esprit aujourd'hui de notre pays et qui fait que le sujet de la sécurité est
exaspérant. Cette doctrine qui consiste à ne pas poursuivre ces jeunes est pour vous erronée.
On bien sûr, pas... et complètement erronée. Et vous pour revenir aux banlieues...
La police anglaise a le droit de percuter. Hein. Les véhicules quand c'est pour sauver d'autres gens.
Non mais là, de nombreux policiers m'ont dit qu'ils avaient la consigne express. Alors, on dit que ça a pu changer certaines fois, que récemment, ils devaient être plus fermes, etc. Enfin... Ils continuent à me dire qu'ils ont la consigne express de regarder à côté. Voilà. Et concernant les banlieues, on a déversé des millions dans les banlieues. On a déversé des millions. Si on en avait déversé autant dans la ruralité, oui, à force de déverser des millions, ça devient des milliards. Vous avez bien raison. Et il ne s'est rien passé. Alors à chaque fois, on fait cette équation selon laquelle les banlieues seraient pauvres et que la pauvreté génère la délinquance. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était odieux parce que les gens pauvres ne sont pas nécessairement des délinquants. Il y a des gens très pauvres et très honnêtes, premièrement. Et puis, on voit bien que ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Et le premier postulat qu'on pourrait convenir de poser, parce qu'en réalité, tout le monde partage cet avis, mais personne n'ose le dire, c'est qu'on a construit des tours de Babel, de communautarisme dans ces banlieues et qu'on n'arrive plus à absorber. Et c'est évident que quand vous avez, par exemple, un certain nombre de populations qui arrivent de pays où les rapports sociaux sont violents, parfois, ils les fuient, du reste. Mais quand ils arrivent et qu'ils passent notre frontière, ils ne deviennent pas tout d'un coup, par l'opération du Saint-Esprit, un citoyen du monde avec nos mœurs. Ils ont intériorisé ce mode de fonctionnement. Donc, s'ils sont très nombreux à les avoir intériorisés, c'est évidemment compliqué. Donc, le postulat, peut-être, serait de commencer à dire « faisons l'inventaire de ce qui se passe en banlieue ». On ne peut plus accueillir une immigration telle qu'on l'a accueillie ces derniers temps. Ce n'est plus possible, ça ne fonctionne pas. Et puis aussi faire en sorte, dernier point, et après je passe la parole, faire en sorte que ce qui se passe en banlieue ne se reproduise pas ailleurs. Parce que aujourd'hui, la tentation, c'est de se dire, puisque ça se passe mal en banlieue, on va faire une politique de la ville et disperser, saupoudrer des logements sociaux à la campagne, dans les petites villes. Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et si on n'a pas le courage de voir exactement, de faire l'audit de ce qui se passe et de voir ce qui ne fonctionne pas, eh bien, c'est des zones rurales, la France périphérique, qui, elle, aura double peine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la périphérie des grandes villes, elle ne bénéficie pas des mêmes services publics, mais en plus, elle aura les mêmes maux.
Gérard Leclerc, vous êtes d'accord avec le diagnostic de Gabriel Cluzel?
Absolument pas, non. Bien évidemment, non.
Je suis très étonné.
Bien évidemment, non. La banlieue, il fut un temps où c'était la banlieue rouge, la ceinture rouge, on parlait, donc, il y avait les élus, étaient à peu près tous du même parti, souvent du parti communiste, pour parler clair. Aujourd'hui, il y a des élus d'un peu tous les partis, hein, quand vous regardez notamment en Seine-Saint-Denis et dans les autres banlieues du même type. Tous les élus sont du même avis là-dessus. Tous le disent. Et les chiffres existent. Contrairement à ce qu'on dit, on dit on a déversé des milliards. Oui, c'est vrai qu'il y a eu de l'argent qui a été déversé, notamment pour la rénovation urbaine, et ça a plutôt bien marché. C'est notamment parce que Borloo qui avait lancé ça, ça a plutôt pas mal marché. Mais d'une façon générale, quand on compare la situation de ces quartiers qui concentrent toutes les difficultés, c'est les quartiers où effectivement il y a de la violence, c'est les quartiers où il y a du chômage, c'est les quartiers où il y a des difficultés scolaires, c'est les quartiers qui sont enclavés, où il n'y a pas de transport, etc. Quand vous prenez ces quartiers, que vous comparez ailleurs, et notamment aux quartiers des centraux des villes, vous verrez qu'il y a une inégalité de traitement qui est manifeste. Il y a eu des exemples, encore il y a très peu de temps, à Clichy, il n'y avait pas de commissariat de police, il n'y avait pas de transport, c'était des quartiers qui étaient complètement enclavés. Tout ça, c'est des réalités. Regardez, je vous dis aussi bien, la violence qui existe, les taux de chômage, les résultats scolaires. Vous avez tout dans ces quartiers. Ces quartiers concentrent toutes les difficultés. Et moi, j'étais effectivement un peu déçu que, lors de la campagne présidentielle, finalement, on n'en parle pas beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de ça. Alors donc, je suis d'accord avec Thibault Membrial. C'est pas uniquement des moyens, mais c'est aussi des moyens. C'est aussi des moyens, et surtout, c'est une vraie politique, et une politique qui prenne en compte les différents aspects. Il faut bien évidemment remettre de la sécurité dans ces quartiers, mais ça ne suffira pas. C'est pas seulement de la sécurité. C'est l'ensemble. C'est des transports, c'est une vraie politique, et surtout, c'est une rénovation de ces
alors, Thibault de Montbrial.
Non, mais d'un mot, on peut pas nier que Gabriel, excusez-moi. a quand même raison de dire, d'ailleurs j'en ai dit un mot, que la constitution culturelle de ces quartiers joue aussi un rôle
dans les questions. Mais ça joue un rôle, mais alors,
dans les questions qu'on constate. Donc, il faut casser ça. Il faut littéralement le casser.
Ça fait quand même de la rénovation. Ça en fait partie, bien évidemment.
Bien sûr, mais pas uniquement d'un point de vue d'urbanisme. On le voit bien, ça ne suffit pas. Vous avez des tas de quartiers qui ont été rénovés et où les problèmes persistent. Je vous dis, sécurité implacable, culture à tout craint.
Moi, j'entends ce que vous dites et je vous aime bien, mais c'est un refrain qui, c'est de la flûte, pardon. Mais dire qu'ils ne bénéficient, qu'ils sont tous défavorisés, je vous renvoie au livre de Christophe Guillouis, La France périphérique. Au contraire, les banlieues, par leur proximité des grandes villes, elles sont près des bassins d'emploi dont ne bénéficient pas nombre de ruraux. Toutes les infrastructures, d'ailleurs, il y a de nombreux maires, même communistes, qui sont écœurés et qui disent on a fait des infrastructures formidables, des piscines, des patinoires, des bibliothèques, et in fine, pour quel résultat ? Donc, moi, je veux bien qu'on continue de vivre dans l'irénisme, mais sur un plateau télé ou de radio, ça peut fonctionner, mais je pense qu'à un moment, quand même, c'est pour les gens eux-mêmes, il faut oser voir les choses.
Gérard Leclerc, un dernier mot.
Interroger ces gens-là, interroger ces maires qui ne sont pas tous des maires socialistes, communistes, ou ce que vous voulez, y compris des gens comme Béchiza, comme etc. Demandez-leur ce qui se passe. Et vous verrez. Et tous, et en plus, je vous dis, les chiffres existent, les statistiques existent, tout existe. Et on sait très bien que ce sont des quartiers qui concentrent toutes les difficultés et qui, contrairement à cette fable comme quoi on aurait déversé des milliards et des milliards, ce n'est pas vrai. La Seine-Saint-Denis, je vous renvoie sur un appel de tous les maires de Seine-Saint-Denis où ils expliquaient ça. C'est pas vrai, ça reste, il suffit d'y aller voir. Alors, il y a eu effectivement des déséquilibres, notamment s'il y a du communautarisme, parce qu'il y a eu une politique de refus de l'assimilation, si je peux dire. Justement, on a concentré des populations. Tout ça, c'est vrai. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on part de cette situation-là et qu'il faut essayer d'y remédier. Allez, et dans la rénovation, ça consisterait aussi, effectivement, justement, à éviter qu'il y ait ces concentrations de population.
Autre affaire, il faut maîtriser la politique migratoire.
Oui, ça en fait partie. Oui.
Un Albanais de 53 ans, mis en examen, écroué à La Rochelle, il a agressé à coups de couteau son épouse, dont il est séparé. Et pour ce faire, il est revenu clandestinement en France. L'homme était sous le coup d'une interdiction de territoire pour 2 ans. Il avait déjà été condamné et incarcéré pour violence conjugale, puis raccompagné en Albanie. Retour sur les faits avec Sophia Dolé.
Les faits remontent au 18 mai dernier. La mère de famille de 53 ans, de nationalité albanaise, se trouve à son domicile de La Rochelle avec ses enfants. C'est à ce moment-là que son conjoint, dont elle est séparée, s'introduit chez elle. Malgré l'intervention du fils de 16 ans et d'un membre d'une association présent à ce moment-là, l'homme lui assène 2 coups de couteau au thorax. L'individu est interpellé peu de temps après dans le voisinage, avec le couteau à proximité. Âgé de 53 ans, de nationalité albanaise, il a déjà été condamné en 2021 pour violence sur son épouse, des faits pour lesquels il avait été incarcéré puis expulsé avec une interdiction de retour en France pendant 2 ans. Devant les enquêteurs, le suspect nie toute tentative d'homicide et indique avoir perdu le contrôle à la suite de problèmes médicaux. L'homme a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence par conjoint en état de récidive légale, tentative d'homicide par conjoint et entrée irrégulière sur le territoire malgré une interdiction de retour. La victime est hospitalisée avec un pronostic vital engagé et le fils, blessé durant l'altercation, a reçu 8 jours d'arrêt de travail.
Thibault de Montbrial, ce qui est terrible, c'est que cet homme n'aurait pas dû être en France, en tout cas pas tout de suite, puisqu'il avait une interdiction de territoire français pour 2 ans.
Ce qui est terrible, c'est l'impuissance que ça démontre de nos politiques publiques en matière migratoire, pas seulement en France, mais en Europe, parce que l'enquête, à ce stade, ne dit pas comment il est rentré en France de façon illégale.
Effectivement, on ne sait pas de quelle façon.
Il est peut-être passé par d'autres chemins que les Albanais utilisent régulièrement. On a en réalité un enjeu, mais qui est vital d'ailleurs, qui est en partie en lien avec le sujet précédent, sur la maîtrise de notre immigration. Les pays anglo-saxons se posent beaucoup moins de questions et ils maîtrisent tout à fait froidement leur immigration avec des quotas, etc. etc.
C'est un archipel, ce qui aide peut-être.
Non, les pays anglo-saxons ne sont pas tous des archipels. Le Canada, les États-Unis ne sont pas des archipels.
Je parlais de l'Angleterre.
C'est une question d'état d'esprit, ce que je veux dire par là. C'est en Europe, et là vraiment je réponds Europe. L'agence Frontex, qui était dirigée par un Français, a commencé à vouloir, avec volontarisme, travailler sur une véritable police aux frontières. Et un arbitrage a été perdu par le directeur de Frontex, et la Commission européenne a exigé sa tête. Hein, il a été démissionné il y a quelques semaines. Et la Commission européenne a considéré qu'il n'appartenait pas à l'agence Frontex de s'ériger en police aux frontières. Et bien, c'est tout l'inverse. Nous sommes complètement à l'envers en matière d'entrée sur le territoire. Encore une fois, pardon, hein, vous me posez des questions, mais je réponds sur ma spécialité, rapport aux problématiques juridiques que ça pose. Cet individu, d'abord, ça montre que le fait d'être interdit de territoire, tout ça, ça n'impressionne plus personne, mais ça, à la limite, c'est même pas le sujet. Mais que ça impressionne ou pas, il faut entraver les possibilités de retour. Il faut les entraver physiquement, à nos frontières, aux frontières de l'Europe. Et ça, c'est une
volonté politique.
Nos frontières, ce sont celles de l'Europe. Quand je dis à nos frontières, c'est à nos frontières, virgule, les frontières de l'Europe. Mmh. Parce que, alors, parfois, c'est en France, mais ça peut être aussi toutes les frontières, et notamment les frontières des pays de l'Est. Donc, c'est un enjeu, et c'est un enjeu qui est un enjeu vital, parce que il y a beaucoup de délinquance, mais il y a aussi beaucoup de déséquilibres économiques qui proviennent par une immigration illégale qu'on connaît, qu'on évalue à plusieurs centaines de milliers, parce que les obligations de quitter le territoire ne sont appliquées qu'à 10%, et donc aujourd'hui, en clair, il y a un axiome qui est tu rentres en France, tu restes en France. Et là, on pourrait y rajouter, même quand tu es expulsé, si tu veux revenir en France, tu arrives à y revenir. Il y a là un problème majeur, mais qui dépasse très largement la France, qui est un problème européen, et dont j'ajoute qu'il est vital.
Gérard Leclerc.
Oui, enfin, l'immigration est un sujet, mais dans le cas précis, normalement, il n'aurait pas dû rentrer. Donc, il est rentré. Oui,
mais ça s'appelle de l'immigration illégale.
Il
est rentré alors qu'il n'avait pas le droit.
Oui, absolument, mais c'est pas quand on parle en général d'immigration, c'est pas ça. Là, il a été interdit de territoire. Il a réussi à rentrer. Oui. Je ne sais pas comment, mais hélas...
Ça s'appelle de l'immigration, de franchir la frontière.
Enfin, en général, quand on parle d'immigration, ce n'est pas ce genre d'immigration dont on parle. Mais
est-ce que ça change le problème, finalement?
Le problème, d'abord, c'est, excusez-moi, mais c'est ce qu'on appelle les féminicides, le premier des problèmes, non? Il y en a 120, entre eux, selon les années, entre 110 et 150 par an. Et ces 110 à 150 par an, ce n'est pas tous des Albanais. Il y en a beaucoup, c'est des Français. Donc le premier problème, à mon avis, ce sont les féminicides. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable. Et c'est aussi, hélas, enfin pas aussi, c'est un sujet sur lequel la France n'a pas suffisamment agi. Si on voit
alors
ce qui s'est passé.
Il y a un sujet immigration.
Là-dessus, je suis d'accord avec Thibault Monnerville. Bien évidemment, il faut tous les pays ont des politiques d'immigration, on peut imaginer faire une autre politique que celle qui est menée en France, encore que tout ce qui est toutes les fables, parce que je considère que ce sont vraiment des fables de parler d'immigration zéro, là quand je vois qu'il y a 200...
C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Donc on est d'accord, donc il faut une politique d'immigration, ça ne veut pas dire forcément immigration zéro. Bon, il y a actuellement les restaurateurs, les hôteliers qui veulent faire venir 200 000 Tunisiens parce qu'ils ne trouvent pas de gens pour comme serveurs.
Une immigration choisie.
Bon, donc on peut, effectivement, la politique d'immigration, c'est pas quelque chose de c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de scandaleux. On peut en faire différent et on peut imaginer une politique d'immigration qui soit plus sévère, plus resserrée que celle qui existe aujourd'hui. Mais là, à mon avis, le premier problème, c'est quand même celui du féminicide. C'est un autre sujet. Alors, ça peut se recouper. Dans le cas précis, ça se recoupe, parce que il n'aurait pas dû être là. Mais justement, il fait même pas partie de l'immigration légale, puisqu'il est arrivé sans avoir le droit. Il avait été expulsé.
C'est bien de celle
mais
dont je parle.
Mais le premier vrai sujet, me semble-t-il, c'est le fait qu'il y ait 120, 130, 150 femmes qui soient assassinées par leur mari, leur compagnon, chaque année en France.
Gabriel Cluzel, votre sentiment?
Oui, non, mais moi, je comprends que vous ayez envie de botter en touche parce que ce sujet-là vous dérange. Mais néanmoins, cet homme-là n'aurait jamais dû être là. Voilà. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a des féminicides et que c'est affreux. Mais la cause féminine, vous savez, la condition féminine, elle est souvent bien mise à mal par les conséquences de l'immigration. Je ne vais pas reparler du voile et du burkini. Et il y a bien peu de féministes pour s'en préoccuper. Vous voyez, moi aussi, je peux passer à un autre sujet. Mais sur la question de l'immigration, c'est vrai que nous avons une politique qui est complètement, pardon, mais nulle. C'est une passoire. Moi, un douanier me raconte encore là récemment que lorsqu'ils arrêtent quelqu'un qui passe illégalement, il est près de Menton, la frontière, il a l'obligation de leur donner des papiers avec tous les noms des associations qu'ils peuvent contacter pour être défendus, pour rester chez nous. Donc, vous voyez que c'est complètement ubuesque. Je vous rappelle quand même, c'était assez symbolique, un individu comme Cédric Héroux avait été invité, il avait quand même aidé à un acte illégal, rentrer dans le pays, dans un pays qui illégalement reste un acte illégal, pardon de ce truisme, eh bien, il avait été invité au Festival de Cannes. Nous avons une politique migratoire à peu près nulle et c'est dramatique. On pourrait citer les effets à l'infini. Hier, nous parlions de ces prédateurs sexuels de mineurs et ces réseaux de pédocriminalité. Mais moi, je crois par exemple que tous ces mineurs, quand ils sont des vrais mineurs, qui rentrent chez nous, qui sont isolés, qui n'ont pas de parents, pas de famille, ben c'est affreux pour eux. Ce sont évidemment les premières proies. Donc, c'est pour tout un tas de raisons et dans divers domaines, cette question migratoire est absolument essentielle et elle reste le mistigril qu'on passe, on prend une petite pelle, un grand balai et on met hop tout ça sous la table.
Il reste quelques secondes, Thibault de Montréal.
Un mot pour dire que je suis évidemment d'accord avec Gérard Leclerc sur l'importance de la question de la lutte contre les féminicides. Mais c'est précisément parce que cette femme était protégée par la République française qui avait expulsé son agresseur et qui était son ex-conjoint que je trouve absolument scandaleux, ubuesque, condamnable qu'on puisse rentrer aussi facilement sur le territoire de l'Union européenne. Et encore une fois, ça nous renvoie à des problématiques qui sont extrêmement complexes en matière de sécurité et en matière économique.
Et il est temps pour moi de vous remercier Thibault de Montbrial, Gérard Leclerc et Gabriel Cluzel. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Christine Kelly. Et sur Europe 1, c'est Punchline qui continue. À tout de suite.
Europe 1. Punchline. Anthony Favalli.
De retour dans les débats de Punchline, nous sommes pour cette partie de l'émission avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Gilles Mantré, bonsoir à vous. Essayiste, vous êtes l'auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens. C'est aux éditions Odile Jacob. On va commencer avec le burkini dans les piscines municipales, toujours au cœur de la polémique à Grenoble. Alors que le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, veut l'autoriser à partir du 1er juin, l'opposition municipale, le tribunal administratif examine aujourd'hui un recours déposé par la préfecture. L'opposition municipale a aussi déposé un recours devant le même tribunal. Et nous allons écouter la réaction d'un opposant, Alain Carignon, président du groupe d'opposition au maire écologiste de Grenoble.
De toute façon, nous poursuivrons notre combat, nous poursuivrons, quelle que soit la décision devant les tribunaux, nous le poursuivrons auprès des Grenoblois parce qu'ils sont très en colère, il y a une colère considérable. Leur ville est quand même montrée du doigt comme étant celle qui ouvre la voie, une voie supplémentaire à l'islamisme politique dans l'espace public. C'est donc quand même un geste considérable.
Jean-Claude Dacier, justement, vous me disiez à l'instant, mais quand est-ce qu'elle doit être rendue, cette décision? Elle devait être rendue cet après-midi à 15h. Elle n'est toujours pas tombée, elle va peut-être tomber dans la soirée. Est-ce que cette décision, une fois qu'elle sera prononcée, va faire jurisprudence?
Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. On va déjà attendre le double recours et les résultats du double recours. Il n'y a pas, juridiquement, les experts, dont je ne suis pas, mais Georges Fenech notamment, dans cette maison, pronostiquent le fait que il sera extrêmement difficile pour le magistrat de s'appuyer sur des textes juridiques qui soient clairs, puisque rien n'existe en la matière concernant le port du burkini dans les piscines. L'hygiène peut-être, alors c'est peut-être dans cette direction-là qu'on va s'acheminer, mais je crois que nous manquons, dans ce domaine-là et dans quelques autres, sur la loi séparatisme, où un certain nombre de sujets ont été écartés par l'Assemblée nationale, alors que le Sénat les avait votés. Je pense que là encore, on manque d'un texte clair qui évite aux municipalités de se déchirer comme elles le font à Grenoble et qui dise clairement si dans cet espace, alors c'est pas facile, comment on appelle ça une piscine? C'est un espace quoi? Privé, ouvert au public?
C'est un établissement recevant du public.
Voilà, c'est un établissement privé qui reçoit le public. Est-ce qu'une loi peut s'imposer? Ça ne peut pas s'imposer uniquement aux piscines. Je pense que ça devrait s'imposer aussi à d'autres établissements du même type. Je pense que nos amis de la magistrature sont en train de se casser les dents sur ce qu'ils doivent dire ce soir à propos de la situation particulière de Grenoble, qui fera peut-être jurisprudence, je n'en sais rien, c'est possible. Mais aujourd'hui, je répète qu'il n'y a pas de texte juridique qui permettrait aux magistrats de dire clairement ce soir, c'est ainsi.
Si, par exemple, le tribunal administratif de Grenoble venait à empêcher l'autorisation du burkini dans les piscines à Grenoble, est-ce qu'il faudrait ainsi empêcher les burkinis dans les piscines municipales de Rennes, par exemple, où le burkini est autorisé ?
Bah, si la loi s'applique à un endroit, elle s'applique sur tout le territoire. Bah, si le tribunal administratif à Grenoble statue contre le burkini, eh ben, le même tribunal administratif en Bretagne statuera dans le même sens. Sauf si ça remonte, bien sûr, jusqu'au Conseil d'État. Non, ce qui interroge plutôt, c'est le timing de cette décision. On est en pleine campagne des législatives. Pourquoi, quel besoin avait Éric Piolle de prendre cette décision maintenant, à 20 jours du scrutin? Tout interroge. Éric Piolle, comme vous savez, le candidat malheureux face à Yannick Jadot dans la primaire des Verts, qui aujourd'hui, les Verts qui ont rejoint la NUP, qui veulent probablement se faire un espace dans cette nouvelle constellation de gauche, qui jette un sujet brûlant, qui crée de la polémique, de l'actualité, qui va remobiliser peut-être aussi un certain électorat musulman, dont on sait qu'il se souvient qu'il a voté Mélenchon et qui maintenant va voter pour la NUP. Enfin, tout ce timing-là, interroge. Enfin, ces sujets sont suffisamment clivants, compliqués, difficiles juridiquement, qu'on vient de le dire, pour qu'on puisse avoir un débat en dehors d'une période électorale qui n'est pas une période liée au municipal, qui est une période sur un autre enjeu, les législatives. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intentions politiques derrière tout ça.
Il y a même que ça.
Donc voilà, je pense
quelque
que...
Quelque part, il a réussi son buzz, Éric Piolle.
Oui, bien sûr. Oui. Bah, le buzz, c'est toujours facile à réussir.
Il aura probablement les voix des musulmans.
Qu'il ait gain de cause à la fin ou pas.
Bien sûr, mais la politique, ça ne peut pas se résumer au buzz. Voilà. Est-ce qu'on va sortir un moment de toujours le bon timing, toujours buzzer tout... Et est-ce qu'on va pouvoir aborder ces sujets sereinement, en dehors de l'hystérie de ces campagnes
électorales? Où va nous mener cette politique, entre guillemets, qui peut, on verra l'avenir, mais satisfaire, quoi? Ou qui? Les minorités. La dictature des minorités, le mot est peut-être un peu fort, dictature des minorités, mais néanmoins, on ne peut pas nier que la vie politique française s'organise de plus en plus. Regardez ce qui s'est passé devant la salle Pleyel. Bon, ils étaient 55, ça ne va pas loin, pour empêcher la réunion générale des actionnaires, qui ont fait finalement ça à travers l'ordinateur. Mais il y a un durcissement incontestable d'un certain nombre de groupes très organisés, très activistes, et qui veulent, ils font ça pour nous, hein, il faut que les télévisions soient là. Si la télé n'est pas là, ils ratent leur coup. Mais c'est encore un autre débat. Ce qu'on disait cet après-midi, c'est que est-ce que les télévisions, dans certains domaines, pas dans tous évidemment, ne sont pas en train de se transformer en une espèce de pilori où les gens, où c'est nous qui rendons finalement la décision juridique, qui ne peut pas la rendre, puisque notamment pour les affaires de viol ou autres, ou d'harcèlement sexuel, certaines sont terminés. La justice ne peut plus s'en mêler, il y a prescription. Et c'est nous. L'affaire Damien Abad, elle n'existe que par les télés. La justice a dit, au mois de circuler, il n'y a rien à voir. Et elle a été confirmée cet après-midi, pas d'enquête. Mais nous, on continue, les politiques continuent, puisqu'on reprend sans arrêt leurs propositions. Tout cet ensemble, et ça fait...
Bon, là, on attend sur la décision
c'est la
du
même chose.
Tribunal
espérons-le.
Administratif.
Espérons-le.
Non, moi, ce que je voulais ajouter, c'est... Quel mandat a Éric Piolle pour prendre une décision aussi importante, hein, aussi fondamentale sur les valeurs? Est-ce qu'il a été élu sur ce mandat-là? Ça pose une question beaucoup plus large, hein, de quel mandat ont les maires et sur quoi ils peuvent se prononcer. Il existe un instrument qui s'appelle le référendum municipal. C'est la loi de 2003 qui l'a ouvert. Vous pouvez, sur des questions aussi importantes sur lesquelles tout le monde a
raison.
Un avis,
ouais,
oui, et ben, très bien, chiche, puisque les Verts, il faut bien leur reconnaître ça, sont assez en avance en termes de réflexion sur la gouvernance, la démocratie, le besoin des citoyens de s'exprimer. Eh bien, chiche, monsieur Piolle, allez-y, organisez un référendum à Grenoble sur le burkini et on verra bien ce que les gens disent.
Oui. On va marquer une courte pause sur Europe 1. Les débats de Punchline se poursuivent dans un instant. On sera toujours avec Jean-Claude Dacier et Gilles Mintré.
Punchline sur Europe 1, Anthony Favalli.
Je suis toujours avec Gilles Mintré et Jean-Claude Dacier pour évoquer l'actualité. Ce terrible drame aux États-Unis, le pays sous le choc après cette fusillade dans une école du Texas ce mardi. Un adolescent de 18 ans a tué 21 personnes. Parmi les victimes, 19 enfants, des enfants âgés d'une dizaine d'années seulement. L'auteur de cette fusillade a été abattu et cela relance évidemment dans le pays le débat sur la prolifération des armes à feu. Les lobbies sont-ils plus puissants que la Maison Blanche? C'est la question que je vous poserai. Le lobby des armes, bien évidemment, dans un instant. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire écouter la réaction de Steve Kerr. Il est coach de l'équipe de basket de San Francisco, les Golden Gate Warriors.
Il faut faire quelque chose. Je suis fatigué, tellement fatigué de présenter mes condoléances à ces familles dévastées. Je suis désolé, je suis fatigué de ces silences. Assez ! Aux 50 sénateurs qui refusent encore aujourd'hui de voter contre le lobby des armes. Je vous demande, à tous ces sénateurs qui refusent de faire quoi que ce soit contre les fusillades dans les écoles, est-ce que vous allez continuer à privilégier votre désir de pouvoir à la vie d'enfants ?
Cette colère, on la retrouve chez beaucoup de monde aux États-Unis, Jean-Claude Dacier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire effectivement que le lobby des armes aux États-Unis est plus fort que la Maison Blanche?
Si on pouvait se consoler un peu, c'est difficile avec ce qui s'est passé, on dirait que peut-être est-ce la tragédie de trop. Mais j'en suis pas sûr du tout. Moi, je suis pas un expert des États-Unis, mais il a raison, notre champion de basket, quand il dit que 50 sénateurs, pour l'essentiel républicains, s'opposent, je pense à une grande majorité d'Américains qui ne demandent pas la disparition du problème des armes. Ils ne demandent pas que tout ça disparaisse et soit emballé dans je ne sais quel endroit. Ils voudraient au minimum que l'on régule un peu. Il y a des États où la pratique, la vente et l'utilisation des armes est fortement, très régulée. C'est l'inverse au Texas qui, avec 7 autres États américains, tu fais ce que tu veux. Est-ce que vous voulez me dire l'intérêt de laisser complètement libre un gamin de 18 ans qui a fêté son anniversaire 2 jours avant et qui achète, je sais pas avec quel argent, et peut-être pillé sa grand-mère qui l'a tué aussi, 2 fusils de guerre, AR, je sais plus combien, qui sont des fusils automatiques, c'est-à-dire qui tuent tout ce qu'il y a en face. Ce sont des fusils de guerre. Qu'est-ce qu'un civil a à faire à acheter des fusils de guerre? Donc, là, encore une fois, ne demandons pas l'impossible. J'espère que l'Amérique va se rendre compte de ce qui lui arrive. On ne peut pas à la fois croire en Dieu et laisser faire des tragédies pareilles. Ça me paraît compliqué quand même. Surtout si on veut continuer d'être le leader du monde libre et la plus belle démocratie du monde. C'est plus tout à fait le cas, franchement. Il va falloir, je l'espère encore, je pense que j'aurais tort, mais j'espère qu'un début de régulation pourra s'imposer, mais vous avez raison, c'est le poids et c'est l'argent qui pèse dans les élections américaines, quelles qu'elles soient, qui emporte la décision. Les 50 députés républicains, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais enfin la plupart sont largement pourvus par la NRA, National Rifle Association. Donc c'est aussi ça l'Amérique. Si vous n'avez pas des millions de dollars, vous pouvez pas faire de campagne, vous pouvez pas faire de politique. C'est un peu ennuyeux quand même.
Gilles Mintré, on se souvient des larmes de Barack Obama il y a 10 ans, 2012, la tuerie du Connecticut, Sandy Hook.
Oui, il y a bien sûr le poids des lobbies, il y a bien sûr le poids de ce qui peut être l'interprétation de la Constitution américaine. Ça, c'est le deuxième amendement. Le deuxième amendement, il y a 10 amendements qui forment la déclaration des droits américaines. Le deuxième, c'est le droit d'avoir une arme. Ça nous paraît, évidemment, culturellement, ça nous paraît incompréhensible, nous, ici, de ce côté de l'Atlantique. Mais j'ai envie de dire, au-delà du poids des lobbies, il y a quelque chose qui est gravissime en ce moment aux États-Unis, c'est la polarisation du spectre politique. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un pays qui est divisé comme jamais entre les républicains et les démocrates. On parle même de identity politics, votre identité politique. C'est-à-dire que vous êtes un républicain, vous allez jusqu'au bout des ongles. Et du coup, il commence à y avoir un corpus. Être républicain, c'est être pour les armes, pour le droit des armes. Dans le passé, ça a été moins le cas. Il y a eu des consensus des deux camps. Il y a eu des régulations en 68, absolument, en 86, en 94, il y a eu un moratoire qui n'ont pas été renouvelés. Un moratoire de 10 ans sur les armes automatiques qui n'a pas été renouvelé. Ils étaient capables, les Américains, il y a encore 30 ans, de trouver des consensus politiques. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Mais c'est la même chose sur l'avortement, c'est la même chose sur les impôts, c'est la même chose sur la plupart des grands sujets. Ça devient même la même chose sur les règles électorales. Et c'est là que la machine est presque en train d'exploser. Parce qu'on n'est même plus d'accord entre républicains et démocrates sur ce que c'est que la démocratie.
C'est catastrophique à voir de notre côté de l'Atlantique, et ça doit nous interpeller. Parce que, bien sûr, on est à des années-lumière de cette polarisation, mais à élection après élection, on voit qu'en France aussi se crée un gouffre entre une France protestataire qui veut changer le système et une France qui est contente du système. Et de plus en plus, on voit que cette ligne de fracture apparaît. Si on ne trouve pas, nous ici, les façons de créer des ponts entre ces deux Frances, eh ben on va se retrouver dans un système américain où plus personne ne peut se parler, y compris des sujets les plus importants.
Partage totalement votre
analyse. Jean-Claude Dacier.
Tout à fait remarquable. On dit toujours, peut-être un peu rapidement, que ce qui vient des États-Unis, on le retrouve en Europe et en France notamment quelques mois ou quelques années plus tard. Bon, reconnaissons que cette violence américaine sur ces armes qu'on ne sait même plus où mettre, tellement il y en a, on l'a pas encore dans notre pays, il s'en faut de beaucoup. Mais vous avez raison, il y a néanmoins, on l'a sous les yeux, une polarisation qui est en train de se durcir et de s'installer aussi en France. Alors je suis pas sûr que ça vienne des États-Unis parce que ce sont plutôt des penseurs français, dit-on, qui il y a 30 ou 40 ans ont inventé le wokisme, la décolonisation, etc., etc. C'est parti, ça a fait florès aux universités américaines, et ça nous revient un peu comme un boomerang. Néanmoins, on ne fait plus en France de la politique comme on en faisait il y a 20 ans et 30 ans. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas très rassurant.
J'ai une dernière question pour vous, il nous reste 3 minutes. Et si l'on arrêtait de retirer des points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse, c'est-à-dire 5 km/h, pas plus? C'est en tout cas une réflexion qui est menée en ce moment au ministère de l'Intérieur. En 2020, les excès de moins de 5 km/h représentaient 58% de l'ensemble des excès de vitesse, soit 7,3 millions de PV. Attention, les amendes devraient en revanche être maintenues. Gilles Mintré, vous en pensez quoi? C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes ou pas?
C'est
un mauvais signal pour la sécurité routière? Parce qu'il y a, voilà, il y a les deux avis.
Bien sûr. Bon, c'est un problème qui est compliqué. Alors, par ailleurs, parce que les automobilistes, il faut qu'ils s'y perdent un peu aussi, parce qu'il y a cette fameuse marge de 10% par rapport à ce qu'est l'exactitude du flashage. Donc, comment est-ce que ça rentre en compte? J'ai envie de dire, on se souvient néanmoins, remarque technique mise à part, que la question de la limitation à 80 hein, sur les routes départementales avait été, parce qu'on parlait de la polarisation de la France, avait été un des éléments de déclencheur entre une France qui pense effectivement sécurité routière, qui considère que si jamais on baisse la vitesse, on a moins d'accidents, qui probablement considère que si on que de laisser une flexibilité à 5 km/h, forcément ça se traduira statistiquement par quelques accidents en plus. Et puis une autre France qui, elle, vit quotidiennement ce que c'est que les allers-retours en voiture, qui n'en peut plus de payer de perdre des points de permis parce qu'ils ont fait 4 km/h au-dessus.
Vous avez dit payer, mais c'est pareil aussi. Effectivement, voilà. Ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, 714 millions d'euros cette année.
Voilà. Hein, et ce que l'on peut constater, c'est que, quand on disait que ces deux France ne se parlent plus, le discours d'expertise, le discours de prise de conscience n'arrive plus à convaincre une France qui, parce que justement, systématiquement pénalisait les coûts et finit par se retourner et penser l'inverse. Et presque contre nature.
Jean-Claude Dacier.
D'accord. Cette politique routière est un désastre depuis de longues années. Un vrai désastre. Je ne dis pas que tout est imputable à M. Hugues-Vincent Barbe, qui a longtemps été directeur de la circulation avant de rejoindre son corps de la préfecture. Mais honnêtement, quand vous avez, le chiffre n'est même pas officiel, moi je serais content que Darmanin, ou ses collaborateurs, nous disent combien il y a à l'heure actuelle, ce soir en France, des conducteurs qui n'ont plus de permis, donc plus d'assurance, et qui sont hyper dangereux s'ils ont le moindre accident. Il y en a, paraît-il, des centaines de milliers. J'approuve complètement la décision de M. Darmanin, si c'est de lui que ça vient.
Mais ça n'ouvre pas à la banalisation des excès de vitesse et un changement des comportements, un relâchement des Français.
Quand vous prenez, moi, je me suis fait retirer un point, moi, l'autre jour, j'étais au-dessus de 5 km heure. Après, c'est vrai, le retrait des 10%. Je devais être c'était à 80 ou 90, je devais être à 100, 105. Franchement, payer l'amende, oui. Mais perdre encore un point, deux points, alors je fais attention, tout le monde fait attention. Mais vous avez une politique, je ne plaide pas pour une amnistie générale, mais il n'est pas normal que sur les routes de France, vous ayez des centaines de milliers d'automobilistes qui conduisent en violation complète des règles, pas de permis, pas d'assurance. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, il y a des experts qui le fassent et qui travaillent sur la question, mais honnêtement, vous oubliez de mettre votre ceinture à Paris, où on roule la plupart du temps, pas du tout, ou à 30 km/h. Vous oubliez de mettre votre ceinture, c'est 3 points. Enfin, écoutez, c'est n'importe quoi. cette politique.
Mais c'est, aussi, c'est aussi un bon signal.
Non,
aussi, non.
Mais qu'est-ce que
la
vous
ceinture
risquez
de sécurité,
mais qu'est-ce que vous risquez à Paris avec une ceinture de sécurité? Vous êtes le nez sur la
à
voiture qui vous précède et vous êtes à 30 km/h sur les grandes voies ou à 50. Bon, je ne dis pas qu'il ne faille pas payer une amende, encore une fois. Ce qui m'insupporte, c'est que cette ceinture que vous avez oublié de mettre, 3 points de moins. Tout ça doit être réexaminé en tenant compte des impératifs de sécurité. Personne ne dira le contraire.
Ça arrive.
Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses à voir.
À 3 semaines des législatives, tout ça. C'est pas
bien. C'est, oui, pour une fois que les élections nous amènent ce qui sera peut-être une bonne nouvelle. Mais bien sûr, oui, sans doute, peut-être, oui. Mais vous trouvez normal qu'il y ait des centaines de milliers de gens qui sont, si ça se trouve, vous allez sortir de cette maison, vous allez vous faire renverser par un gars qui n'a pas d'assurance, donc il faut aller chercher le fonds des assurances, qui va vous rembourser éventuellement au bout de 6 mois. Franchement, il est efficace et utile, avant les élections ou pas, de repenser une politique d'autoroutière qui soit un petit peu plus réaliste et un peu moins, comme vous le disiez, au détriment des gens.
Gilles Maintré, pour finir, il nous reste quelques secondes.
Non, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à une trêve républicaine entre les présidentielles et les législatives, où le gouvernement s'abstiendrait de prendre des nouvelles mesures à 20 jours d'une élection.
Ah voilà, vous rebondissiez là.
Non mais voilà, je
disais sur votre marque. On est à l'étude là.
Oui, un gouvernement qui est censé être responsable devant le Parlement, il n'y a pas de Parlement, peut-être qu'on pouvait attendre 15 jours pour faire son annonce.
Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Gilles Maintré, essayiste, merci d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous sur Europe 1, comme tous les jours, service Pioline, Axel May et Cédric Pioline. Bien évidemment, c'est dans un instant sur Europe 1, radio partenaire officiel de Roland Garros. À tout de suite.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Anthony Favalli.